Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h21, ce soir, dans votre club des idées d'Europe 1, on embarque à bord de la machine à remonter le temps. D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Que savons-nous vraiment de notre histoire familiale ? Des millions de Français s'emploient chaque jour à faire pousser de nouvelles feuilles sur leurs arbres. Pourtant, on ne va pas parler de jardinage ce soir, mais de généalogie, cette autre passion française. Quand la petite histoire nous relie à la grande. Avec moi, pour en parler dans ce studio, le psychanalyste Serge Effèze, auteur de D'où je viens, le petit livre pour parler de toutes les familles aux éditions Bayard. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Marie-Odile Merniac, généalogiste, auteur de Généalogie, remonter son arbre en archive et en archive aux éditions Archives et Culture. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Nathalie Jovanovic-Florincourt, vous êtes spécialiste en généalogie génétique. Vous êtes présidente de l'association DNA Pass. Vous nous expliquerez que c'est une association qui informe sur les tests ADN notamment. Et vous êtes également co-auteur de Quoi de neuf dans la famille aux éditions Bûcher-Castel. Bonsoir donc à tous les trois.
Bonsoir.
D'abord, est-ce qu'on est capable d'évaluer combien il y a de passionnés de généalogie aujourd'hui en France, Odile Merniac?
Environ 10 millions.
Marie-Odile Merniac,
environ 10 millions. 10 millions. Ah oui. Ce qui fait de la généalogie le troisième loisir après le jardinage et le bricolage en France.
Avec ça m'a beaucoup surpris. Oui. Sur quels critères on dit ça?
Alors, en fait, les archives départementales ont des listes d'inscrits qu'ils compilent régulièrement. L'association des archivistes en était déjà à 4,5 millions en 2004. Et puis, il y a aussi les associations de généalogie. Il y a les grands portails de généalogie en France. Et voilà, en cumul et en prenant une hypothèse de doublon quand même entre tous ces chiffres, on arrive à 10 millions à peu près.
10 millions. Ça ne vous surprend pas, vous, Serge Effèze, 10 millions de Français passionnés de généalogie?
Non, ça ne me surprend pas, parce que la généalogie, c'est une quête des origines, c'est une quête de son histoire, c'est un petit peu une quête d'identité, de savoir d'où on vient et qui on est. Et c'est vrai que les origines sont plus confuses aujourd'hui, parce que les familles se recomposent beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup plus de migrations, il y a beaucoup plus de brassages de population, et donc on perd vite un petit peu ces racines qui étaient beaucoup plus évidentes du temps où il n'y avait qu'une seule façon de faire famille et de faire des enfants.
Oui, parce que autrefois la généalogie, c'était surtout, me semble-t-il, l'apanage des aristocrates. Hein. Chaque grande dynastie avait son arbre généalogique auquel il était très attaché.
Avant la Révolution,
pour revendiquer son appartenance à la noblesse. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, hein, Marie-Odile Merniac. Hein.
Non, plus rien. Avant la Révolution, c'était aussi, il faut le dire, une façon d'être fiscalement dédouané. C'est-à-dire qu'on était exempté d'impôts si on prouvait qu'on avait une ascendance noble. Donc c'était un petit peu comme de la fraude fiscale à la limite lorsqu'on faisait dire à son arbre des choses qui n'étaient pas tout à fait vraies. Mais maintenant, c'est vraiment depuis les années 50 complètement démocratisé. La moyenne d'âge, c'est 42 ans actuellement et on cherche aussi bien des lignées de meuniers, des lignées de laboureurs. On trouve amusant de trouver des bagnards dans son arbre. Voilà, tout est possible maintenant.
Oui, c'est ce que vous disiez, il y a des nouveaux profil hein, maintenant dans ces adeptes de la recherche d'ancêtres. Il y a 20 ans, c'était plutôt 70 ans. Désormais, toutes les générations s'y mettent. Hein. Nathalie Jovanovic-Florincourt.
Jovanovic-Florincourt,
oui,
mais c'est pas grave.
À l'envers, pardon. Je vais essayer d'ici la fin de l'émission, c'est promis, de prononcer votre nom correctement. Donc oui, il y a toutes les générations maintenant qui s'intéressent à la généalogie. Hein.
Les tests ADN, effectivement, ont attiré des jeunes de 20 ans. Oui. Puisque je rappelle qu'il vaut mieux être majeur pour faire un test ADN. Et c'est une nouvelle génération, effectivement, qui arrive par le biais de l'intime, par le biais de l'analyse de ses origines ethniques, mais par le fait aussi de retrouver des cousins génétiques et parfois de façon surprenante dans le monde entier, qui peut les amener à faire de la généalogie.
Bon, on va revenir sur ces tests ADN parce que c'est passionnant. Je voudrais d'abord qu'on prenne un témoignage en ligne, si vous le voulez bien. Bonsoir, Olympe Huette-Rigaud.
Oui, bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce soir sur Europe 1. Vous êtes membre de l'association Les Jeunes et la Généalogie. Et vous êtes vous-même lancée en tant que généalogiste il y a 2 ans, c'est ça? Vous avez 31 ans. Hein. Racontez-nous
ce qui
vous a donné envie de vous lancer dans la généalogie.
Eh ben, j'ai commencé toute jeune avec mon papa et mon papy. Je devais être en école primaire par là. Et puis, je l'ai regardé travailler sur notre arbre. Et voilà, ça m'a donné envie, ça m'a donné l'intérêt en tous les cas pour la généalogie, pour l'histoire de notre famille, ce qu'ils faisaient, pourquoi, etc. Je trouve que c'est important, c'est savoir d'où l'on vient.
Et vous êtes remontée jusqu'où ?
Alors, ce n'est pas moi qui suis remontée jusqu'où, mais du côté huette, on est remonté jusqu'en 1648, il me semble, dans l'Indre.
Mm-hmm. Voilà. Et donc, ça, c'était quand vous étiez adolescente avec votre papa, votre papy. Et puis, quand vous êtes devenue adulte, vous êtes devenue maman. Et là, de nouveau, vous vous êtes intéressée à tout ça, c'est ça?
Alors, quand j'étais enfant, j'étais très intéressée par la généalogie. Le fait de les regarder faire avec les actes qu'ils avaient été chercher, etc. Après l'adolescence, j'ai un peu abandonné, je l'avoue. Et c'est quand je suis devenue maman, oui, où j'ai eu un regain d'intérêt pour tout ce qui est histoire familiale.
Alors, vous avez repris le flambeau de ce qu'avaient déjà fait votre père et votre grand-père. Et en plus, oui. Vous en avez fait votre profession.
Tout à fait.
C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes officiellement généalogiste.
Voilà, en fait, je faisais la généalogie d'amis et puis je me suis dit que ça prenait du temps et je me suis dit pourquoi pas devenir professionnelle. Et je me suis lancée, l'idée a mûri début 2019 et puis j'ai tout lancé, j'ai fait le logo. Logo dont je suis très fière puisqu'il y a les initiales de mon grand-père, voilà.
Ça coûte combien si je suis intéressée, si je vous contacte pour que vous fassiez mon arbre généalogique?
Ça dépend ce que vous voulez, sur 5 générations, ou sur ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a des personnes qui prendront un forfait, je dirais, d'autres qui ont peu de moyens et qui préfèrent le faire à l'heure. Et voilà.
Bon, si je veux sur 5 générations, disons.
Sur 5 générations, pour un arbre complet. J'ai pas les prix en tête, mais oui, il faut compter.
Bon, alors je vais me tourner vers 700 euros. Ok, je me tourne. Merci. Olympe, vous restez avec nous. Vous restez avec nous, surtout. Marie-Odile Mergnac, parlez-nous de cette profession de généalogiste. Il y en a combien en France? À peu près.
Je dirais
des centaines, des milliers.
Une centaine. Alors, ce qui est très différent, il y a deux métiers en fait en un. Il y a les généalogistes dits successoraux qui, eux, travaillent pour les notaires qui ont des successions en déshérence parce qu'ils ne connaissent pas les héritiers du défunt et ils ont pour mission de retrouver les possibles cousins, descendants, parents. Donc là, il peut s'agir de cabinets très gros avec beaucoup de salariés. C'est un métier complètement différent et ils accèdent à des archives que le généalogiste familial ne peut pas consulter puisqu'elles sont protégées par la législation.
Il y a des écoles de généalogistes ?
Il y a des formations qui se donnent à Nîmes, au Mans. Il y en avait une à Corté, mais qui n'existe plus. Et il y en a une à Strasbourg, qui est née l'an dernier.
Alors, elle n'a pas vraiment voulu nous dire, Olympe, ça coûte combien de consulter un généalogiste?
Eh bien, je vais vous dire un peu comme elle. Ça dépend.
Ça dépend ce qu'on cherche.
Ça dépend ce qu'on cherche, et puis ça dépend des difficultés. S'il y a... Si vous cherchez une famille strictement bourguignonne ou si vous cherchez une famille ukrainienne... Le temps passé ne va pas être le même.
Bon, écoutez, je vous propose qu'on poursuive ce débat passionnant dans un tout petit instant. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h31, on poursuit notre débat sur Europe 1 autour de la généalogie qui passionne de plus en plus les Français. Et oui, il y a aujourd'hui des millions d'apprentis détectives en France avec tous le même objectif, retrouver l'histoire de leur famille, comprendre qui étaient vraiment leurs ancêtres. Toujours à mes côtés ce soir pour en parler, le psychanalyste Serge Hefez, auteur de « D'où je viens », le petit livre pour parler de toutes les familles aux éditions Bayard, Marie-Odile Mergnac, généalogiste, auteur de « Généalogie, remonter son arbre » et en archive aux éditions Archives et Culture, et Nathalie Jovanovic, Florincourt, spécialiste en généalogie génétique. Alors Serge Hefez, comment expliquez-vous l'ampleur que prend aujourd'hui cette passion française? Quelles sont les raisons intimes qui nous poussent à faire cette démarche? Parce que ça va au-delà de la curiosité, j'ai l'impression.
Oui, alors, bon, comme je disais tout à l'heure, il y a cet aspect que les origines sont beaucoup plus confuses dans les familles à l'heure actuelle, avec tous ces brassages, ces recompositions, parfois ces procréations médicalement assistées. Enfin bon, tout ça rend plus confus la question des origines. Mais surtout, chacun y cherche un peu du sens par rapport à son existence. Parce que la psychanalyse a popularisé quand même l'idée de la transmission et de la transmission psychique. C'est-à-dire que ce qu'on est aujourd'hui, on est le produit d'éléments conscients et inconscients qui nous sont transmis depuis parfois plusieurs générations et que ce qu'a commis un grand-père ou une arrière-grand-mère, les traumatismes qu'elle a pu vivre, les secrets de famille qui se sont produits à ce moment-là, eh bien que tout ça se transmet psychiquement d'une génération à l'autre et que ça peut expliquer un certain nombre de symptômes qu'on développe aujourd'hui. Cette idée est devenue très familière pour tous. Donc retrouver une histoire de famille, c'est un petit peu peut-être chercher à retrouver du sens à un malaise ou à des questionnements qu'on a aujourd'hui.
Et peut-être encore plus en cette période compliquée. C'est vrai qu'à l'occasion des différents confinements, les Français ont trié leurs papiers, ils sont peut-être retombés sur des vieilles photos. Est-ce que cette période, elle a peut-être augmenté cette envie? Le décès d'un proche aussi a pu être peut-être un déclic?
Tout à fait, parce que ça a été une période de resserrement familial. Resserrement veut dire à la fois des liens qui deviennent plus importants pour chacun, parfois aussi plus conflictuels. Donc, à travers tout ça, il y a quelque chose dans les familles, dans le huis clos familial qui est devenu beaucoup plus intense pour tout le monde d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup plus d'inactivité professionnelle, malheureusement, pour beaucoup. Donc ça a effectivement été une période où on s'est beaucoup précipité sur toutes ces questions-là pour retrouver du sens à sa propre existence.
Marie-Odile Mergnac, faire son arbre généalogique, ça peut se faire aussi en famille, hein, et ça peut être d'ailleurs un petit-fils qui peut avoir envie de poursuivre, comme la jeune femme que nous avions en ligne tout à l'heure et qu'on va retrouver, de poursuivre avec son grand-père la démarche qu'il a entamée. Par exemple, c'est l'occasion d'un formidable rapprochement générationnel aussi. Vous avez parfois des familles entières qui viennent vous voir pour faire cette démarche?
Alors, des familles, non, mais on parlait du confinement, par exemple. Là, typiquement, le resserrement des liens, on l'a constaté. J'ai croisé beaucoup de généalogistes amateurs âgés qui m'ont dit, j'ai plein de jeunes cousins qui m'ont appelé, que je n'avais jamais vu, je les connaissais de nom, mais sans plus, qui m'ont appelé pour qu'on puisse échanger des photos par Internet, pour que me demander des noms, des prénoms, des dates, pour qu'on puisse construire ensemble un arbre généalogique familial. Les inscrits aux archives départementales, donc c'est quand même assez technique, ont doublé en avril 2020. Doublé.
Ouais.
Enfin, c'est...
Et puis, c'est énorme, c'est énorme.
La première chose à faire quand on commence un arbre, c'est déjà
c'est
de contacter
poser,
les plus anciens, de leur faire parler de la famille, de leur faire parler de leurs souvenirs d'enfance. Et avec le Covid, c'est tellement plus sympa d'appeler pour questionner autour de ça
On a plus de temps aussi.
Que de demander comment vas-tu, bien sûr, mais voilà, de parler d'autre chose que du Covid, c'est sympa. De la Covid,
Ce que vous disiez aussi, c'est qu'avec l'essor des sites internet, la numérisation des archives dans chaque département, reconstituer son arbre généalogique, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide qu'autrefois. Hein.
Oui.
La numérisation, ça a bouleversé la généalogie.
Voilà, tout l'état civil de plus de 100 ans est numérisé. C'est-à-dire que, en gros, François Ier à 1920, tout est accessible en ligne. Vous pouvez tout trouver. Et c'est gratuit. La France est un des rares pays où les archives anciennes sont comme ça, accessibles gratuitement. Archives liées à la guerre 14, par exemple, vous pouvez savoir ce que votre ancêtre poilu dans les tranchées a fait au jour le jour, là actuellement, sans bouger de votre fauteuil. Vous avez tous les outils en main pour pouvoir le faire sur Internet.
C'est incroyable. Mais alors, ce que vous nous dites entre les lignes, c'est que grâce à ces archives, on peut se passer de vous, on peut se passer des généalogistes, non?
Alors, moi, je généalogiste, c'est toujours dans un but de publication. Hein, je ne fais pas de recherche pour des particuliers.
D'accord. C'est-à-dire un but de publication?
Toujours des ouvrages. J'ai créé des collections aux éditions Autrement, aux éditions Archives des Cultures.
Donc vous ne recevez pas des gens qui vous disent « aidez-moi à faire mon arbre généalogique ».
Voilà.
Très bien.
On les conseille, je donne des cours, des séminaires vidéo, mais voilà, c'est différent.
Alors, les conseils, ça nous intéresse, évidemment, pour tous nos auditeurs qui vous écoutent, qui ont envie de se lancer. La première chose donc à faire, ce que vous nous disiez quand on veut démarrer une recherche, déjà, c'est d'interroger ses proches.
Oui.
Son grand-père, son grand-oncle, etc.
Exactement.
Etc. Et ensuite, on fait quoi? Une fois qu'on a atteint les limites de leur mémoire, j'ai envie de dire.
Voilà. Alors, il faut retenir que, grosso modo, il y a des bémols, hein, mais ce serait trop compliqué de rentrer dans le détail. Les archives, en tout cas, de moins de 100 ans, l'état civil de moins de 100 ans, ne sera pas accessible en ligne. Donc, il faut passer ce cap des 100 ans avec la mémoire de ses proches ou avec les papiers qui dorment dans les tiroirs. Il suffit d'un livret de famille ancien et puis le cap des 100 ans est passé. Et après, on rebondit d'acte en acte. C'est vraiment extrêmement ludique. C'est aussi pour ça que ça plaît. En dehors de l'aspect affectif qu'on peut avoir avec la famille, une fois qu'on met un doigt dedans, on trouve ça tellement amusant qu'en général, on continue. On y va pour quelque chose.
C'est ça. Serge Eiffel, c'est un jeu de piste, en fait, hein, de faire son arbre généalogique. Et c'est ça qui excite.
Je vous écoute, je suis fasciné. Non, j'apprends effectivement des choses que je ne savais pas, hein, sur la façon de... Je ne savais pas qu'on pouvait remonter comme ça jusqu'à François 1er sur Internet. Ça va donner, à mon avis, des idées à beaucoup, gens. Vous savez, il y a une branche de la psychothérapie qui s'appelle la psychogénéalogie, qui a été aussi très, très popularisée et qui est une façon de, à travers l'arbre généalogique et à travers les origines, de marquer l'effet marquant de l'histoire de tous ces personnages pour essayer de, et des dates aussi marquantes pour essayer de retrouver des choses qui se répètent dans le présent, qui se répètent de cette histoire. Et c'est comme un jeu de piste, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est comme une enquête policière, c'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver quelque chose qui vous affecte dans le présent mais qui s'est peut-être produit il y a 3 ou 4 générations.
Ça aussi, c'est passionnant. On va prendre en ligne Quentin Ménot. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Quentin, vous avez 24 ans. Vous êtes donc très jeune pour un jeune généalogiste, j'ai envie de dire. On a toujours l'image de nos grands-parents. Vous êtes gérant de la page Jeune Généalogiste sur Facebook. Vous vous intéressez en particulier au test ADN. Ça, on va y revenir. Mais d'abord, racontez-nous, comment est-ce que vous avez commencé la généalogie ?
Alors, j'ai commencé la généalogie par curiosité et aussi pour retracer l'histoire de ma famille, parce que j'ai une famille qu'on pourrait dire un peu brisée. Contrairement, comme diraient vos invités sur le plateau, moi, je n'ai pas pu demander à mes grands-parents ou à ma famille de me donner des indices. J'ai juste demandé à mon père comment s'appelait mon arrière-grand-père, parce que je ne connais pas mon grand-père paternel, mon arrière-grand-père, comment il s'appelait, et vers quelle époque il était né, et où. Je me suis lancé à la recherche de son acte de naissance grâce à la numérisation des archives départementales de Seine-Maritime, et j'ai retrouvé son acte de naissance. Alors, la chose qui m'a un peu choqué, c'est que sur l'acte de naissance de mon arrière-grand-père, donc qui s'appelle Louis, il n'y avait pas le nom du père. En fait, il a été seulement reconnu par sa mère, et sa mère est citée que dans l'acte de naissance. Et donc, je me suis lancé au fur et à mesure, un peu comme un détective, à la recherche de ce père qui pourrait...
Ah oui, vous êtes allé encore plus loin que l'arbre généalogique. Là, vous êtes allé vraiment, vous avez fait du détective, hein.
Exactement. Alors, il y a eu des légendes un peu... En fait, j'ai découvert un peu un secret de famille, parce que personne n'en avait entendu parler. Et en fait, j'ai réussi à savoir que donc mon arrière-arrière-grand-mère, qui s'appelait Louise, était servante. Et que en fait, mon arrière-grand-père donc s'appelle Louis-Hildevert Ménot, parce que mon nom c'est Ménot, bien évidemment, étant donné qu'il a été reconnu que par sa mère. Et le patron de sa mère... accouché avec son patron qui s'appelle Hildevert Vincent. Donc en fait, je ne devrais pas m'appeler Ménot.
Bon, ce que vous nous dites en fait, c'est que vous ne recherchiez pas uniquement des noms, hein, vous recherchiez surtout une histoire familiale. Et c'est ça qui est intéressant dans votre histoire, Serge Eiffel. Hein.
C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a un secret de famille là. Et peut-être que pour cet auditeur, ce secret de famille, il a du sens. Peut-être qu'il a senti que dans cette famille, ce secret, et souvent c'est des enfants adultérins, hein, les secrets de famille, c'est souvent autour de ça, ça pesait sur lui.
Oui, parce que Quentin, il dit aussi un truc, il dit « j'ai commencé la généalogie car je viens d'une famille où personne ne se parle ».
Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne se parle pas dans ma famille ? Alors souvent, quand on dit qu'on ne se parle pas, c'est qu'il y a des secrets, justement, qu'il y a des secrets qui circulent, qu'il y a des fantômes dans les placards, comme on dit. Où ils sont ces fantômes ? À quelle génération ? Tout ça, c'est des quêtes, effectivement, qui sont beaucoup plus faciles aujourd'hui avec tout cet accès généalogique.
Justement, dites-nous, Quentin, est-ce que vous n'avez pas envie de faire un test ADN ?
Alors, je suis très intéressé par le test ADN. J'en ai pas fait pour le moment. Parce que j'en ressens pas spécifiquement le besoin, mais je suis très intéressé. J'ai des amis autour de moi qui en ont fait, mais je trouve que ça a quand même certaines limites, même si je trouve ça très très intéressant.
Nathalie Jovanovic Florincourt, vous êtes spécialiste justement en généalogie génétique. Alors, cet outil ADN, hein, ces tests ADN qui sont à notre disposition, enfin pas en France, on va expliquer tout ça, mais on peut les commander sur Internet. Ils font fureur justement auprès des jeunes et pourtant ils sont interdits en France. Pourquoi ?
Eh bien, j'aimerais bien avoir l'explication parce que je ne comprends toujours pas.
Je crois qu'il n'y a que deux pays en Europe où on n'a pas le...
La Pologne et la France sont toujours les deux pays en Europe qui refusent de légaliser les tests ADN à des fins généalogiques, sachant que ces tests sont réalisés depuis 20 ans dans le monde et notamment aux États-Unis. Donc, on a le recul nécessaire sur des éventuels dangers qui pourraient survenir avec l'utilisation de ces tests. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de fantasmes parce que quand on parle d'enfants adultérin, et c'était un argument qui avait été opposé, on disait oh, en France, il ne faut surtout pas légaliser, il y a 15% d'enfants qui seraient éventuellement adultérins. Et il y a eu des études scientifiques de généticiens, statisticiens, sur l'Europe, dans plusieurs pays, Allemagne, Italie, Belgique, et le taux de ce qu'on appelle les événements non filiatifs, c'est-à-dire que le père ou un des parents n'est pas le parent légitime déclaré, est de l'ordre de 1% seulement. Et cela recoupe aussi les adoptions cachées, pas forcément l'adultère, les viols de guerre, malheureusement, à certaines périodes, c'est arrivé, et ça ne représente que 1%. Ça veut dire que dans 99% des cas, vous êtes bien l'enfant de vos parents.
Bon, c'est rassurant. Ça marche comment ? Ça marche comment ? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre alors grâce à ces tests ? C'est quoi ? C'est un petit bâtonnet,
C'est un petit bâtonnet, effectivement.
On frotte à l'intérieur de la joue, dans la bouche.
Soit on frotte à l'intérieur, comme dans les experts, les séries policières, on recueille de la salive avec un petit bâtonnet à l'intérieur sur la joue intérieure. Soit on crache dans un petit tube, c'est moins glamour,
mais
c'est la façon
COVID,
de recueillir
de
la salive. Et ensuite, ça part dans un laboratoire qui est généralement situé aux États-Unis où l'analyste le fait, et vous avez les résultats directement en ligne sur Internet avec votre mot de passe sécurisé. Et
donc là, ça prend en quelques semaines, quelques mois, ça part
à partir du moment où vous renvoyez l'échantillon, ça prend entre 4 et 6 semaines. Ça, après, avec le Covid, il y a eu quelques petits rallongements. Voilà, mais c'est 4-6 semaines en moyenne.
Et donc là, on apprend quoi ? On apprend ses origines ethniques ?
On apprend deux choses. On apprend effectivement quelles sont ses origines ethniques et ce qui porte le plus à confusion pour les gens parce que les laboratoires ont une vision marketing des choses. Ils vont vous dire vous êtes français, vous êtes d'origine ibérique. Alors que
oui, puis
nos
avez 10% de ça, 25% d'Afrique du Nord, 30% d'Europe du Sud, etc. Mais c'est troublant quand même. Hein.
Ouais, c'est plus ou moins fiable selon les panels utilisés par les laboratoires, qu'il faut le rappeler, sont des sociétés commerciales qui sont en concurrence et qui ont des degrés de fiabilité plus ou moins importantes. Donc, c'est plus ou moins fiable. Et ensuite, la présentation, être français il y a 200 ans quand on habite l'Alsace-Lorraine, ça ne veut rien dire.
Oui.
Donc, il faut recontextualiser et en fait, toujours raccorder ses origines ethniques à ses ancêtres, voir où ils sont nés, d'où ils provenaient. Ce ne sont pas des nationalités à laquelle on doit se rapprocher, ce sont des populations qui vivaient sur des zones géographiques étendues et qui, parfois, sont sur plusieurs pays actuels.
Quentin, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous avez des amis, vous, qui ont fait des tests ADN ?
Oui, tout à fait. J'ai une amie en particulier à qui je pense, qui rejoint exactement les propos qui viennent d'être dits sur le plateau, c'est que ça donne un panel un peu général de groupes ethniques, mais en fait, ça ne donne pas réellement le contexte et ça ne donne pas non plus, vous savez, les si je pourrais dire, les sous-ethnicités, par exemple, pour l'Afrique du Nord, ça ne dit pas exactement si vous venez de l'Afrique du Nord un peu plus au sud. Donc, ça a quand même ses limites et ça aussi... C'est quand même interdit en France. Donc, c'est plutôt un but récréatif.
Oui, un but récréatif. Hein. C'est vrai, Nathalie Jovanovic-Florincourt, qu'on s'offre des kits à Noël. On voit ça, on organise des ADN parties entre copains. On compare la loterie. Quoi. Moi, je viens de là, et puis de là, et puis un peu de là aussi. On est peut-être cousins.
Le mot récréatif, chez moi, est totalement prohibé, interdit, définitivement à bannir, parce que malheureusement, ça donne une idée effectivement très ludique, superficielle. Il ne faut pas oublier que pour certaines personnes, notamment les adoptés nés sous X, qui cherchent à identifier leurs origines, ça n'a absolument rien de récréatif. Et dans l'association, j'ai des personnes qui cherchent l'identité d'un grand-père naturel inconnu, et pour qui c'est vital. C'est une souffrance vécue au quotidien de ne pas connaître l'identité de ce grand-père naturel qu'ils recherchent, ou d'un grand-parent qui a été adopté et pour lequel le test ADN est le seul moyen d'identifier le grand-père. Mmh. Alors, dans ces cas-là, parler de récréatif, c'est vraiment injurieux et blessant pour eux.
Je comprends.
Il y a aujourd'hui toutes ces situations aussi d'enfants qui sont nés par PMA, par donneur de sperme anonyme, pour qui vivent ça comme une grande injustice, de ne pas avoir droit à savoir qui est leur géniteur et qui se débrouillent avec les textes ADN et en recoupant sur Internet, ils retrouvent des cousins, ils retrouvent des demi-frères génétiques et ils arrivent à remonter leurs origines génétiques. Oui. Et du coup, on ne peut aujourd'hui que modifier la loi sur l'anonymat des donneurs, ça n'a plus beaucoup de sens.
Marie-Odile Mermac. Parce qu'en fait, avec l'ADN, on obtient deux choses. On obtient effectivement des informations ethniques qui sont... pardonnez-moi Nathalie, mais ludique,
oui.
Parce qu'elle vous donne des indications sur la localisation de vos ancêtres, disons-le, il y a 10 000 ou 30 000 ans, c'est tout.
Ça ne dit pas grand-chose, en fait, de nous.
À côté de ça, ça vous donne un arbre chromosomique extrêmement précis sur 8 générations, où vous avez non pas des noms et des prénoms, des dates et des lieux, mais où vous avez vraiment les chromosomes de chaque personne qui sont dessinés et vous pouvez retrouver des cousinages en croisant ces données-là avec les arbres généalogiques d'autres internautes et vous pouvez constater que vous avez le même arrière-arrière-arrière-grand-père et retrouver comme ça les filiations qu'indiquait Nathalie.
Mais on peut retrouver aussi par exemple des prédispositions génétiques parce que ça peut être un peu,
dans l'ADN,
un peu inquiétant. Hein.
Alors dans l'ADN, on a effectivement l'ADN, c'est des informations de parenté avec d'autres personnes qui vont se faire tester, mais c'est effectivement éventuellement des informations génétiques médicales. Mais il faut savoir que dans la mesure, et grâce au RGPD, nous sommes tous protégés en tant que citoyens européens, dans la mesure où on passe un contrat avec une société qui est de dire « je donne mon ADN pour avoir des informations généalogiques », le laboratoire ne peut pas l'utiliser pour d'autres propos. Maintenant, si c'était légalisé en France, on pourrait surveiller qu'ils le fassent bien.
Donc, parce qu'il
y a toujours le risque
qu'une société
soit malhonnête.
Oui, parce qu'il y a effectivement ce problème de l'exploitation des données. Ce n'est pas dangereux de confier son ADN à des entreprises privées quand même. On peut se poser la question.
Je travaille dans une banque et j'ai accès à des données potentiellement hyper confidentielles. Mais je n'ai pas le droit de les exploiter. C'est le principe pour toute donnée confidentielle, parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'Internet, c'est ce qui circule. Les données confidentielles dans les hôpitaux qui sont piratées et qui deviennent publiques, le risque, il existe de base aujourd'hui dans le monde. Maintenant, ce qui est important, c'est de s'assurer que, d'une part, le laboratoire en question soit honnête.
Bien sûr.
Ça peut arriver dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel secteur. Et si c'est légalisé en France, eh bien moi, je fais tout à fait confiance à la loi française pour aller s'assurer que les laboratoires remplissent leurs engagements.
Olympe, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous seriez intéressée,
oui.
Vous, par un test ADN, éventuellement?
Je suis un peu mitigée, moi. Je suis un peu mitigée parce que... justement, je ne sais pas où vont passer mes données. Alors, je vais les avoir, mais après, ça va être stocké, etc. Alors, c'est quelque chose... Bon, j'ai le livre de M. Bocarno et de Mme Jovanovic-Floraco, donc j'attends de le lire pour avoir un avis plutôt définitif.
Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les trois ici en studio. Merci à nos témoins également, Olympe et Quentin. Je pense que beaucoup de nos auditeurs risquent d'avoir envie de se lancer dans la généalogie après ce débat.
Europe 1, écoutez le monde changer.